Sylvain Patieu qui est à nos côtés à propos de la publication aux presses de sciences politiques, tourisme et travail de l'éducation populaire au secteur marchand 1945-1985. Alors, on va parler de tourisme et travail, peut-être en quelques mots, et puis après on reviendra sur son histoire. On va dire ce que c'est que, cette institution qu'est tourisme et travail. Pour savoir de quoi on parle.
Tourisme et Travail, c'est une association de tourisme social dont l'existence a duré donc à peu près de 1944 jusqu'en 1985. Et en fait, c'est une association qui était proche de la CGT, donc qui était liée au syndicalisme et qui avait pour public prioritaire, donc ceux qui partaient souvent en vacances avec Tourisme et Travail, c'était en priorité des ressortissants des comités d'entreprise. Les comités d'entreprise, ils avaient une part de leur budget qui était consacrée aux œuvres, ce qui était appelé avant les œuvres sociales. Tourisme et Travail n'aimait pas ce terme. Mais donc une partie de ce budget était consacrée soit à créer des centres de vacances qui étaient gérés et animés par Tourisme et Travail, soit à organiser des séjours touristiques dans tel ou tel lieu.
Alors d'accord, on va... Pour élargir un peu le propos, tout de même, tu fais une sorte d'histoire sociale du tourisme populaire. J'ai l'impression que c'est un domaine assez maigre que ça. Et qu'est-ce que c'est un peu un domaine en friche, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'études pour développer le tourisme, etc. Mais sur cette histoire-là, qu'on peut dater un peu du début des et les congés payés de 36 en particulier.
Alors voilà, en fait, il faut savoir que le tourisme, c'est une invention aristocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est quelque chose qui est passé dans le langage commun, mais pendant bien longtemps, ça a été une invention des aristocrates qui faisaient un grand tour quand ils étaient jeunes à travers toute l'Europe, notamment les aristocrates anglais. Au XIXe siècle, il y a eu une diffusion du tourisme, de la pratique du tourisme dans certaines fractions de la bourgeoisie qui a... Pour eux, c'était un peu une manière de se distinguer, en fait, de faire du tourisme. Et ils mettaient un sens à la fois patriotique, culturel, éducatif à leur tourisme. Et puis c'était aussi une manière d'être moderne, puisqu'ils partaient en vacances à bicyclette ou en automobile. Donc c'était vraiment une manière de se distinguer. Le tourisme populaire, c'est une invention du XXe siècle. Auparavant, il n'y avait pas de tourisme populaire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de loisirs populaires, mais le fait de partir, c'était pas dans les mœurs. En tout cas, pas de partir pour le plaisir ou pour le loisir. Alors c'est vrai qu'on pense souvent à 36 quand on pense au tourisme populaire, puisque c'est la date des congés payés, hein, les deux semaines de congés payés, les grèves, les usines occupées, tout ça. En fait, il y a assez peu d'ouvriers qui sont partis en vacances en 36, parce que et d'une, il fallait avoir les moyens pour partir en vacances, et de deux, ils n'avaient pas ça dans la tête, c'était pas quelque chose qui était ancré dans les mœurs. Et donc en fait, le véritable essor du tourisme populaire, quand on commence vraiment à avoir des ouvriers, des employés qui partent en vacances, c'est plutôt à partir des années 50 et surtout 60. Pourquoi ? Parce que c'est les 30 glorieuses, c'est la croissance, c'est donc des salaires qui augmentent, un pouvoir d'achat qui augmente, et c'est seulement à partir vraiment de ces années-là que des ouvriers, des employés, donc des gens modestes, peuvent vraiment partir en vacances. Et peuvent éventuellement se payer, alors ça peut être des vacances en camping, ça peut être des vacances à l'étranger, ça peut être, peut y avoir différentes manières. Il y a aussi le développement de l'automobile qui permet de partir plus facilement en vacances. Mais donc c'est vraiment quelque chose de neuf, hein, le tourisme populaire. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui n'est pas encore gagné, hein, puisque encore aujourd'hui il y a un ouvrier sur deux qui ne part pas en vacances. Donc il y a 6 employés sur 10 qui partent en vacances. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est un acquis, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement et ce qui a surtout été lié au développement de ce que le sociologue Robert Castel appelle la société salariale. C'est-à-dire la société salariale, c'est une société dans laquelle, quand vous êtes salarié, vous avez un certain nombre de mécanismes sociaux comme la sécurité sociale, le fait qu'il y ait le plein emploi et tout ça, qui vous assure à la fois un emploi stable, mais qui vous assure aussi des droits, le droit à la retraite, le droit à l'assurance maladie, bon, quelques exemples, et qui font que vous n'êtes pas obligé de consacrer tout votre argent uniquement à épargner en cas de coup dur ou pour vos vieux jours. Et donc, le fait qu'on soit dans cette société salariale pendant les 30 Glorieuses, ça a donné lieu aussi à un certain nombre de mécanismes de promotion sociale, d'ascension sociale pour des personnes de milieu modeste, qui ont fait que partir en vacances devenait envisageable, devenait possible.
Alors, le tourisme dont on va parler, à travers tourisme et travail, mais on élargira aussi parce que il y a un système un peu qui se met en place, enfin, en tout cas, adossé à son syndicat, le sport en même temps, la démocratisation de la pratique sportive et tout ça semble se dessiner quelque chose, une société autour plutôt de la CGT, du Parti communiste.
Alors, c'est vrai que bah, là, mon travail est pas mal centré autour de la CGT, puisque j'ai surtout travaillé sur Tourisme et Travail. Mais il y avait d'autres syndicats qui avaient des associations un peu semblables. Alors, Tourisme et Travail, c'était un peu la référence, parce que c'était la plus grosse association. Puis c'était la CGT qui dominait à l'époque. Mais la CFTC, puis la CFDT et FO ont eux aussi eu leurs associations de vacances, leurs associations de tourisme. Et en fait, on est dans une question qui se pose au syndicat. C'est de savoir s'ils doivent s'occuper du salarié uniquement sur son lieu de travail ou s'ils doivent aussi s'occuper de la vie hors travail du salarié. Alors, traditionnellement, on distingue souvent le syndicalisme revendicatif et le syndicalisme de service. En fait, dans le cas de la CGT avec Tourisme et Travail, on a les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un syndicalisme de revendication et un syndicalisme de service, puisque, par le biais d'une association qui était Tourisme et Travail, le syndicalisme offrait aux salariés quand même des plus grosses entreprises, puisqu'il fallait avoir un comité d'entreprise qui tienne la route, eh bien, ils offraient à ces salariés le fait de pouvoir avoir des loisirs, donc parmi lesquels les vacances.
Alors quand tu dis c'est la plus grosse, pour avoir une ordre d'idée, qu'est-ce que ça représente en termes d'importance, cette structure?
Bah, Tourisme et Travail, par exemple, dans les années 70, c'est à peu près une centaine, entre 100 et 200 associations locales, parce que ça progresse pas mal pendant les années 70. C'est des milliers et des milliers de personnes qui sont parties en vacances avec Tourisme et Travail. Il y avait aussi des militants donc, qui étaient soit dans les comités d'entreprise, soit dans les villes, localement. Et en fait, il y a beaucoup plus de personnes des milieux populaires qu'on peut partir en vacances en général que celles qui sont parties en vacances seulement avec Tourisme et Travail. Mais Tourisme et Travail, il y a aussi un aspect symbolique. C'est-à-dire que non seulement ils organisaient des vacances pour les travailleurs, mais en plus ils faisaient savoir. Et il y avait un côté symbolique qui était important. Par exemple, essayer d'organiser des vacances à l'étranger, essayer d'organiser des croisières, essayer d'avoir des châteaux qui étaient des centres de vacances. Tout ça, il y avait un aspect symbolique qui était de dire voilà. Vous êtes ouvrier, vous êtes employé, mais vous pouvez avoir des vacances comme les autres, comme les élites sociales, comme les bourgeois, comme les aristocrates. Et cet aspect-là, à mon avis, il est aussi important finalement que les vacances qui se sont véritablement réalisées.
Alors, on va revenir au début et à la création de cette structure. Au départ, ça émane d'où? Et surtout, il n'y a pas que la CGT, manifestement, qui est dans le coup au départ.
Ben, en fait, au départ, c'est assez complexe parce que ça naît sous le régime de Vichy. C'est créé en janvier 1944 sous le patronage du Haut Commissariat au Tourisme. Donc, en voyant ça, on pourrait se dire, oula, attention, c'est une émanation de Vichy. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que dans les créateurs de Tourisme et Travail, il y a beaucoup d'anciens militants des auberges de jeunesse. Donc, les auberges de jeunesse, c'était un mouvement qui était très fort dans les années 30, où il y avait des associations laïques et puis aussi des associations religieuses qui souvent se tiraient un peu la bourre. En 1944, on a des membres de ces auberges de jeunesse qui décident de créer Tourisme et Travail. Alors, parmi ceux qui créent Tourisme et Travail, il y en a qui sont des résistants, il y en a qui vont être déportés. Et puis, à la libération, l'association n'est pas interdite, donc ce qui est bien la preuve qu'elle n'était pas tellement compromise avec le régime de Vichy. Et elle est réappropriée en fait par les pouvoirs publics à la libération qui lui confient des missions. Notamment, parmi ces missions, il y avait le fait de proposer des séjours de repos pour les personnes qui avaient été déportées ou les anciens prisonniers de guerre. Il y a toute une série de syndicats qui font partie à ce moment-là de la direction de Tourisme et Travail, notamment la CGT, mais aussi la CFTC. Et en fait, le sort de Tourisme et Travail se scelle avec la guerre froide. C'est-à-dire qu'avant la guerre froide, vous avez par exemple les pouvoirs publics qui permettent à Tourisme et Travail d'organiser des vacances pour les anciens prisonniers de guerre, des vacances en Allemagne. Donc il y a une dimension un peu de revanche hein, par rapport à l'Allemagne, avec d'ailleurs des vacances qui peuvent être organisées dans des anciens centres de Kraft d'Urschfreude, qui était l'organisation de tourisme des nazis. Et puis après 1947-1948, quand la guerre froide bat son plein, Tourisme et Travail est accusée d'être une association communiste. Elle est accusée d'être sous la coupe de la CGT. Et il n'y a plus de subventions. La CFTC quitte Tourisme et Travail. FO, qui est une scission de la CGT, n'y adhère pas. Et donc, Tourisme et Travail se retrouve avec, pour seul syndicat qui est vraiment présent dans sa direction, la CGT. Et à partir de ce moment-là, c'est une association qui est vraiment très fortement liée à la CGT, mais en même temps qui va tout le temps garder une certaine autonomie. C'est-à-dire que, disons que la CGT délègue un peu les aspects touristiques à Tourisme et Travail. Ils s'en mêlent pas trop. Alors quand ça va mal, de temps en temps, ils tapent un peu du poing sur la table. Ils changent quelques dirigeants, etc. Mais on peut dire quand même que Tourisme et Travail va vivre sa vie.
Alors il faut parler de l'articulation, tu l'as évoqué tout à l'heure, avec les comités d'entreprise, une instance nouvelle qui va modifier, parce qu'il y a de l'argent à ce moment-là.
Voilà, il y a de l'argent et qui dit argent dit possibilité d'organiser des voyages, possibilité de mettre en place des centres de vacances. Et donc Tourisme et Travail va avoir des relations privilégiées avec les comités d'entreprise qui sont à dominante CGT. Bien sûr, hein, y a un aspect donc, syndical très fort. Ils vont réussir à mettre en place un certain nombre de centres de vacances, entre 20 et 30, un peu sur toute la France. Quelques centres de vacances à l'étranger aussi. Et surtout, en fait, le fait que les comités d'entreprise subventionnent ces centres de vacances, subventionnent Tourisme et Travail, ça va permettre à des salariés de partir en vacances avec l'association, alors qu'ils n'auraient peut-être pas pu partir en vacances tout seuls. Ça permet, disons, de faciliter pour ceux qui n'ont pas beaucoup les moyens, le fait de partir en vacances avec Tourisme et Travail. Alors, c'est sûr que c'est plutôt des gros comités d'entreprise. Ouais.
Non, quand tu parles de moyens, parce qu'il y a une dimension en termes d'aide financière à partir en vacances, mais aussi des moyens d'organisation. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'il y a un apprentissage du voyage, du tourisme dans ses débuts.
Bien sûr, il y a à la fois les moyens financiers, mais il y a aussi des moyens militants. C'est-à-dire qu'il va y avoir des militants syndicalistes qui vont en fait se spécialiser dans le tourisme et dans l'association de tourisme. Donc, c'est eux qui vont organiser, organiser ces vacances, ces loisirs, avec derrière la tête un projet qui est bien précis. Et en fait, on retrouve là une vieille idée, hein, depuis le début du XXe siècle, les loisirs ouvriers ont toujours fait peur. Ils ont fait peur aux patrons, ils avaient peur que les ouvriers en profitent pour s'organiser, faire la révolution ou je sais pas trop quoi. Ils ont fait peur aux bourgeois parce que les loisirs ouvriers, c'était peut-être pour aller se saouler la gueule ou pour mettre en place des activités subversives. Mais ils faisaient peur aussi aux militants catholiques parce qu'ils avaient peur des activités immorales ou aux militants socialistes puis aux militants syndicalistes. Pourquoi ils avaient peur? Parce que pour eux, le loisir, ça devait surtout pas être quelque chose qui détourne des conditions de travail, qui détourne des luttes. Et donc il y avait vraiment cette peur d'un loisir oisif, d'un loisir qui serait voué à la pure distraction, alors qui serait le bistrot, l'alcool, la danse futile ou le jeu par exemple. Et donc dans l'idée de ces militants syndicalistes qui mettent en place Tourisme et Travail, il y a l'idée qu'il faut mettre en place un tourisme utile, des loisirs utiles, c'est-à-dire des loisirs qui vont être éducatifs et puis surtout des loisirs dans lesquels on va essayer de politiser les milieux populaires. Ils vont partir en vacances, mais ils vont pas bronzer idiot, on va dire. Hein. Alors ça, c'est un projet qui est très présent dans Tourisme et Travail, avec l'idée de vacances pédagogiques, de vacances pas comme les autres. C'est toujours l'idée, nous, on n'est pas le club Méditerranée, on part pas en vacances pour s'amuser, pour draguer ou je ne sais quelles autres activités. On part en vacances parce qu'on veut s'instruire, parce qu'on veut s'éduquer, parce qu'on veut être ensemble. Et en ce qui concerne ce projet, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu quand même... Il y a pu avoir un certain décalage entre ce qui était porté par les élites militantes et ce qui était, disons, ressenti, réapproprié par les vacanciers populaires.
Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un cadre idéologique très, 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 très fort. Enfin, y compris, il y a des carrières militantes qui se font là-dedans. Et justement, c'est ce que je voulais te demander. Dans quelle mesure est-ce que le public y va parce que c'est une possibilité qui leur est ouverte? Et dans quelle mesure est-ce qu'il y a des gens qui adhèrent à ce projet dont le contenu une partie du contenu est idéologique? Au-delà de l'accès au loisir, il y a le loisir sous une certaine forme.
Il y a plusieurs vacanciers de Tourisme et Travail, c'est-à-dire qu'il va y avoir le vacancier qui part en vacances parce que c'est une possibilité dans son comité d'entreprise, c'est des vacances moins chères. J'en ai interviewé par exemple qui me disait qu'il partait indifféremment avec Tourisme et Travail ou avec des organismes commerciaux, et qu'en fait, eux, Bah, ce qui les intéressait, c'était de partir en vacances. Ce que j'ai interviewé d'anciens vacanciers. Il y a ceux qui partaient parce qu'ils étaient militants de Tourisme et Travail, ou militants de la CGT, ou militants du Parti communiste. Donc, chez eux, il y avait une dimension idéologique qui était plus forte. Et puis, il y avait aussi des adhérents individuels chez qui la dimension idéologique était encore plus forte. Bon, par exemple, j'ai un ami qui était fils de député communiste, qui me raconte que lui, ses vacances quand il était jeune, c'était les vacances avec Tourisme et Travail. Parce que voilà, c'était partir avec les ouvriers, c'était partir avec l'association qui était liée à la CGT. Donc il y avait un côté là, idéologique qui était très fort. Mais ce que je me rends compte, c'est que même j'ai une partie de ceux qui partaient en vacances avec Tourisme et Travail pour des raisons militantes. Et à plus forte raison chez les autres. Ce qui primait quand même dans ces vacances, c'était l'aspect de distraction. Il y avait l'aspect éducatif, il y avait l'aspect pédagogique qui était indéniable, mais c'est pas forcément ni ce que Tourisme et Travail mettait le plus en avant quand il voulait vendre ses vacances, ni ce qui était le plus, ce qui marquait le plus les personnes qui partaient en vacances.
Mais alors concrètement, tu parles de cette dimension pédagogique, mais concrètement, ça se passe comment? Je veux dire, le matin, il y a 2 heures de conférence avec un historien obligatoire avant d'aller à la plage. Ou qu'est-ce qui se met en place?
Il y avait l'écoute de fréquence par pluriel qui était obligatoire. Non, bah c'était en fait c'était ça variait, hein, mais en général c'était plutôt sur la forme soit de conférences, soit de visites quand c'était des vacances itinérantes. Il y a plusieurs aspects, hein, dans cette éducation. Il y a une idée d'abord qui est très forte, qui est par rapport à la culture légitime. La culture légitime, c'est la culture des élites, la culture des dominants. Et l'idée de Tourisme et Travail, c'était de dire des ouvriers, des employés doivent avoir accès à cette culture. Ils doivent pouvoir, eux aussi, visiter des monuments, visiter des musées, etc. Bon, ça, c'est un premier aspect. Après, il y a l'aspect politisation. L'aspect politisation qui pouvait avoir lieu, par exemple, par le biais de conférences, de choses comme ça. Donc, il y a les deux aspects qui étaient présents. Donc ça pouvait vouloir dire des visites, ça pouvait vouloir dire des conférences dans les centres, mais attention, il n'y en avait pas tous les jours, il n'y en avait pas, c'était pas toutes les heures, c'était pas obligatoire. Et par exemple, les conférences dans les centres de Tourisme et Travail, on a souvent des dirigeants de l'association qui se rendent dans les centres et qui sont très déçus de voir qu'il y a finalement, il y a pas beaucoup de vacanciers qui vont assister à ces conférences, parce que ils préfèrent aller à la plage peut-être, ou parce qu'ils préfèrent jouer au volley ou à la pétanque, je sais pas. Donc c'était pas forcément très suivi. Après, quand c'était des voyages itinérants avec un guide, là, y avait des visites qui étaient prévues, les gens y assistaient. Mais c'était pas forcément là non plus ce qui retenait le plus par rapport à leurs vacances. Hein, ils pouvaient par exemple retenir plus l'arrêt shopping que l'arrêt musée ou visite de l'Acropole quand ils allaient en Grèce, par exemple. Ou en tout cas, les deux dimensions étaient présentes. Et ce qui est intéressant, je trouve, là-dedans, c'est qu'on peut voir qu'il peut y avoir un certain décalage entre un ethos populaire, c'est-à-dire une manière de vivre, une manière de se comporter des milieux populaires, et puis des milieux militants. Il peut y avoir un décalage entre les deux. Alors, ce n'est pas forcé, mais les dirigeants de Tourisme et Travail, ils venaient de milieux populaires, pour la plupart d'entre eux. Ce n'étaient pas des bourgeois, ce n'étaient pas des profs qui allaient faire la leçon aux ouvriers. Ils venaient vraiment de milieux populaires. Mais en même temps, par le fait du militantisme, par les carrières militantes, ils avaient acquis un capital militant, un capital culturel, qui faisait qu'il y avait quand même, malgré tout, une certaine distance entre eux et leur public. Alors, ils essayaient autant qu'ils pouvaient de politiser, de cultiver, mais parfois, il y avait des résistances, il y avait le groupe des vacanciers populaires qui n'adhéraient pas forcément au projet, ou alors qui l'auraient approprié à sa façon. Et il y avait un jeu là-dessus, c'est-à-dire que Tourisme et Travail, ils n'étaient pas bêtes, ils ne proposaient pas que des activités intellectuelles, quoi. Et alors, par exemple, j'ai interrogé un ancien dirigeant local de Tourisme et Travail, j'arrivais un peu naïvement en lui disant, bon, racontez-moi, au niveau culturel, qu'est-ce que ça vous a appris, Tourisme et Travail? Alors bon, il savait pas trop quoi me dire, alors au bout d'un moment, il a peut-être voulu un peu me faire plaisir, je lui suggérais ça, je lui disais par exemple, est-ce que vous avez vu des pièces de théâtre, de la danse? Il dit, ah oui, spectacle de danse, oui ça, oui, alors je dis, ah bon, alors qu'est-ce que c'était? Il dit, on a fait le lac des cygnes, on a fait une représentation du lac des cygnes. Alors je dis, ah bon? Il dit, oui, et vous voyez, moi je suis un peu corpulent, et donc je m'étais mis en tutu pour faire le lac des cygnes et j'avais d'autres camarades qui avaient fait pareil. Et donc en fait j'ai compris que certes c'était le lac des cygnes, mais c'était plus le cabaret, quoi. C'était plus un côté comique, quoi. Et donc c'est dur de savoir parfois qu'est-ce que c'est comme culture? Est-ce que c'est forcément la culture légitime ou est-ce que c'est d'autres formes de culture? Ça peut être par exemple l'association locale de Tours, où j'ai interrogé pas mal d'anciens dirigeants, ils organisaient des montées à Paris pour des spectacles, donc des visites en car. C'était par exemple Les Misérables de Robert Hossein. Donc ça aussi, est-ce que c'est la culture légitime ou pas? Et donc en fait, on était tout le temps dans Tourisme et Travail dans des contradictions comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait indéniablement un travail un travail de, disons, d'éducation populaire, un travail de pédagogie, il y avait une politisation, mais elle avait aussi ses limites. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les contradictions, les limites qu'il pouvait y avoir. Et puis, ça amène à des questions, bien sûr, plus larges. C'est-à-dire que il n'y a qu'en France et en Italie, en Europe, qu'il y a eu vraiment des mouvements communistes qui étaient très forts. Il n'y a qu'en France où on a eu tendance à tracer un trait d'égalité entre mouvement ouvrier, mouvement communiste. Alors ça, tout ça, c'est des choses qui ont été pointées, par exemple, par un chercheur comme Bernard Pudal. La question qui se pose, c'est de savoir si il y a eu adéquation complète entre, d'une part, les groupes ouvriers dans leur ensemble, le mouvement ouvrier et puis le Parti communiste. Et là, on voit donc qu'il y a à la fois des temporalités différentes par rapport au parti, au syndicat, à l'association, puisque Tourisme et Travail n'était pas directement lié au Parti communiste, mais qu'il y a aussi des temporalités différentes par rapport aux vacanciers, aux militants, aux dirigeants. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir les contradictions de ce projet, c'est-à-dire à la fois de voir ce qui a pu être réalisé, les gains symboliques que ça a pu apporter, et puis les limites que ce projet a rencontrées. Et je pense que ça pose des questions plus larges pour tout projet d'émancipation, en fait.
Adieu, monsieur, tout est fini.
Ah.
Alors, les usagers de tourisme et travail dans cette île sur Dalida, et si oui, quel regard portaient sur eux les dirigeants de la même organisation? C'est un peu les questions auxquelles va essayer de répondre notre invité d'aujourd'hui, Sylvain Pathieu. On discute autour de cette association Tourisme et Travail. Est-ce que plus largement, quel regard tu portes sur cette idée que, alors autour du mouvement ouvrier, autour du PC, autour de quelque chose qui serait cette histoire du mouvement ouvrier français, il y a eu la volonté de mettre en place une sorte de contre-culture, qui est souvent présentée à la fois culturelle, avec ses poètes, ses écrivains, ses théâtres, ses cinémas, enfin en particulier les théâtres dans les villes communistes, mais aussi ses structures pour faire du sport. Il y avait par exemple la FSGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. Il y avait, et puis la question du loisir. Est-ce que tu vois cette question du loisir à travers Tourisme et Travail comme une tentative de faire un tout pour une contre-culture, voire une contre-société?
C'est difficile à dire parce qu'on parlait de contre-culture, par exemple, en matière de tourisme. Le tourisme est complètement intégré à la culture dominante. Et donc, c'est plutôt accéder à la culture légitime que mettre en place une contre-culture. En même temps, il y a l'idée de faire autrement, c'est-à-dire de faire un autre tourisme. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, alors que ce soit la FSGT, que ce soit Tourisme et Travail ou d'autres associations, c'est qu'on est dans une période où, en fait, par le biais du syndicalisme, peut passer aussi une certaine fierté ouvrière.
Là, on parle des années 60-70.
Voilà, les années 60-70. C'est-à-dire qu'il va y avoir, la possibilité, quand on est ouvrier, à travers son syndicat, à travers ses associations, de participer à des activités donc, collectives qui ne sont pas directement politiques, mais qui font politique au sens où elles forgent une identité de groupe. C'est-à-dire qu'on va être adhérent à la FSGT, on va partir en vacances avec Tourisme et Travail. Et alors, d'une part, on va être dans un entre-soi, puisqu'on va partir avec d'autres, souvent avec d'autres ouvriers ou avec d'autres syndicalistes. Et en même temps, on va aussi être dans une dimension de dire on vaut autant que les autres. Nous aussi, on est capable de partir en vacances. Nous aussi, on est capable d'aller en Tunisie ou en Grèce, puisque c'était Dalida et Dada, dire la Dada. Cette dimension-là des associations, qui étaient des associations qui étaient vraiment partie intégrante à la fois d'un projet d'éducation populaire, mais aussi d'une dignité et d'une fierté ouvrière, ça a largement disparu avec la crise des années 1980. Puisque les associations sont devenues alors soit des associations culturelles, c'est-à-dire qui portent un projet qui s'adresse plutôt à des catégories issues des classes moyennes, par exemple le tourisme culturel aujourd'hui ou le tourisme solidaire, c'est plutôt ça. L'UCPA, puisque tout à l'heure pendant la pause on parlait de l'UCPA, c'est aussi un peu ça. Hein. L'UCPA, donc démocratiser les sports de montagne.
Mais c'est ça, parce qu'il faut dire que l'UCPA, qui a l'air aujourd'hui d'être une immense machine à fric, et puis surtout pour permettre au bac plus 3, à partir de bac plus 3 célibataire, de former un couple avec quelqu'un du même niveau social que soi. Enfin, c'est un peu l'usage. Au départ,
l'union des cœurs perdus, l'union des cœurs en peine d'amour.
Mais l'UCPA, au départ, est un projet très largement subventionné par l'État qui a une... Est-ce que tu peux dire deux mots là-dessus de démocratisation d'un certain nombre de pratiques sportives?
En fait, on a tout un ensemble de mouvements d'éducation populaire dont l'UCPA fait partie et puis Tourisme et Travail aussi, en fait, les associations, à partir du moment où il y a la crise, elles se voient confier deux rôles. Soit elles s'adressent plutôt aux classes moyennes et elles ont un rôle culturel ou un rôle d'association de solidarité, des choses comme ça. Soit elles ont un rôle social. Mais le social qui était auparavant ce qui faisait fierté, hein, ce qui était, on faisait groupe quand on faisait partie du tourisme social, par exemple, devient en fait un manque. C'est-à-dire que on est aujourd'hui partir en vacances avec le tourisme social, c'est parce qu'on n'en a pas les moyens. C'est pas parce qu'on est dans un comité d'entreprise qui a les moyens de vous permettre de partir avec Tourisme et Travail comme les bourgeois. C'est parce qu'on n'a pas l'argent et donc qu'on part en vacances comme on peut. Et donc les associations deviennent en fait des sous-traitantes de l'impuissance publique. Et au lieu que par le biais associatif soit le biais d'une fierté, soit l'affirmation d'un droit salarial, eh bien on passe à autre chose. On passe à des associations qui se voient fixer carrément d'autres missions par les pouvoirs publics. Ou alors, on a ce qui s'est passé pour Tourisme et Travail, une association qui fait faillite. En 1987, Tourisme et Travail a dû déposer le bilan et qui se transforme en société commerciale, Touristra. Avec, bien entendu, un objectif de tourisme social qui reste présent, mais c'est quand même une entreprise. Même si le tourisme social, c'est quand même une entreprise, c'est quand même une société commerciale qui a aussi donc pour but de faire de l'argent. Et c'est plus une émanation du syndicalisme, une émanation des comités d'entreprise. Et donc là, on voit vraiment que avec cette société salariale qui était présente dans les années 50, 60, 70, on avait la possibilité d'un un individualisme collectif. C'est ce que Robert Castel appelle ça comme ça, hein, c'est toujours le même sociologue. Il parle d'individualisme collectif parce que c'est un individualisme dans lequel vous épanouissez votre personnalité par le biais du collectif. Vous partez en vacances avec Tourisme et Travail. Il y a des conférences, il y a l'idée d'un tourisme éducatif, il y a la visite au musée. Bon, ça vous plaît, tant mieux, vous y allez, vous participez à la conférence, vous faites partie du musée, tout ça. Ça vous plaît pas, bah, vous avez les moyens de passer outre. Et vous pouvez, vous, jouer à la pétanque pendant qu'il y a la conférence de Tourisme et Travail, mais vous êtes en groupe, vous êtes, vous êtes dans un entre-soi, et puis vous partez en vacances comme les autres. Aujourd'hui, c'est un individualisme négatif, dans le sens où c'est un individualisme par soustraction du collectif. C'est-à-dire que soit vous partez en vacances avec le tourisme social parce que vous êtes pauvre, parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous êtes exclu, vous n'avez que ça, vous n'avez pas d'autres possibilités. Soit vous partez en vacances parce que vous en avez les moyens, justement. Et c'est une manière de se distinguer non plus de ceux d'en haut, mais de ceux d'en bas. Vous partez en vacances avec l'UCPA parce que vous pouvez le faire. Et donc, vous n'êtes pas parmi les plus pauvres de la société. Et donc, on a un individualisme négatif, c'est-à-dire que c'est un individualisme qui n'est plus émancipateur, mais qui est par soustraction du collectif et qui est un individualisme du manque, en fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour toutes ces associations de tourisme social, de solidarité, tout ça. Alors, il y en a qui continuent à exister, il y en a qui continuent à essayer de faire ce qu'elles peuvent, mais on voit bien quand même les dégâts qu'a pu faire le libéralisme dans les années 1980.
Alors avant de revenir sur la fin de on a un petit peu mangé la fin de ce projet-là, il y a quand même une dimension assez intéressante, assez particulière, en tout cas à Tourisme et Travail, c'est le développement du tourisme en direction des pays de l'Est. Et là, tout de même, il y a quelques mots à dire sur qu'est-ce qui se met en place et quel type de relations, quel type de voyages sont organisés.
Alors, c'est intéressant parce que le voyage à l'Est, ça a été, dans le monde communiste, ça a été un grand classique. Dans les années 20, dans les années 30, partir en vacances en Union soviétique, par exemple, c'était pour quelques privilégiés qui étaient récompensés de cette manière. Ou alors, on invitait des intellectuels pour qu'ils puissent témoigner ensuite, quand ils revenaient en France, du paradis soviétique. Dans les années 30, c'était beau. Et les années 40, c'était bien sûr beaucoup plus difficile de partir en Union soviétique. C'était quasiment bloqué. Et puis à partir de la déstalinisation, tout ça, il y a de nouveau la possibilité de partir dans ces pays-là. Et le voyage à l'Est, qui avait une dimension très politique dans les années 20 ou dans les années 30, il perd en partie cette dimension politique. C'est-à-dire que ce qui va être mis en avant dans le voyage à l'Est, ça va être pas forcément les aspects politiques, mais aussi les aspects purement touristiques. Mais il y a du politique là-dedans, parce que c'est une manière de banaliser les pays de l'Est. De dire, partant en URSS, partant en RDA, partant en Hongrie, c'est des pays touristiques comme les autres. Et le fait même de partir, ça montre que c'est des pays qui ne doivent pas être boycottés, qui ne doivent pas être critiqués, etc. Donc il y a cette ambivalence dans le voyage à l'Est. Tourisme et Travail, organiser des voyages à l'Est, ce n'était pas la majorité des voyages qu'ils organisaient, mais ils en organisaient plus que les autres, c'est sûr, plus que d'autres associations ou d'autres organismes de voyage. Mais quand on regarde ce qui était mis en avant, c'était par exemple plus les beautés de la mer Noire ou des plages de l'Adriatique que les bienfaits du système soviétique ou des démocraties populaires. Donc il y a une ambivalence. Par le biais du tourisme, on banalise ces pays-là et en même temps, on dépolitise en quelque sorte ce voyage. Il y a les deux aspects qui sont en même temps.
Parce que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer ou d'entendre des témoignages d'un certain nombre de militants communistes pour qui le voyage à l'Est durant l'été avait des effets de réassurance, quoi, en disant on fait bien de se battre pour une société comme ça, parce que quand même, moi, j'ai passé d'excellentes vacances en Roumanie ou en Bulgarie, etc.
Oui, il y a cette dimension-là, mais comme tu dis, j'ai passé d'excellentes vacances. C'est pas forcément le système est génial. C'est aussi, avant
et
tout,
on a manqué de rien. On
oui,
a manqué
on a
de
manqué
rien
de
en plus.
Hein, ouais,
tous les gens qui disent qu'on manque. Moi, j'ai bien vu pendant mes
oui,
vacances, on a manqué
alors,
de rien.
Ça, c'est assez fort, notamment sur le voyage en Union soviétique. Par exemple, les articles dans Tourisme et Travail qui rendent compte des voyages en Union soviétique, ils insistent bien sur le fait que il n'y a pas de queue devant les magasins, que il n'y a pas de chômage, qu'il n'y a, y a, y a pas d'alcoolisme, contrairement à tout ce qui peut être dit. Bon, ça, c'est plus présent par rapport à l'Union soviétique. Mais les voyages dans les autres pays de l'Est sont finalement de manière assez surprenante dans la manière dont ils sont présentés, en grande partie dépolitisés. Mais cette dépolitisation, c'est en même temps une forme de politisation. C'est circuler, il n'y a rien à voir, c'est des destinations de vacances comme les autres.
Alors, tu évoques aussi l'évolution dans cette organisation, le tourisme et le travail, l'évolution du personnel lui-même. Est-ce que les années 60, 70, avec des militants qui deviennent des militants dont la cause principale est la démocratisation du tourisme, ça génère un certain nombre d'effets sur ces militants eux-mêmes?
Ben c'est sûr qu'il y a une professionnalisation. Alors, à tous les niveaux, hein, au niveau des dirigeants de Tourisme et Travail, on a des militants syndicalistes qui font des carrières en fait associatives et qui deviennent même après des professionnels du tourisme. Et puis on a aussi cette dimension-là à l'échelle des centres de vacances, puisqu'il s'agit de recruter des animateurs qui sont formés. Il y a par exemple la création du BAFA, des choses comme ça. Donc il s'agit plus forcément que ce soit des militants ou des travailleurs qui assurent l'animation, mais ça devient des professionnels. Et là, on entre aussi dans des contradictions, puisque le projet de Tourisme et Travail, c'est un projet militant. S'il est mis en place par des salariés, ces salariés ne vont pas forcément respecter ce projet initial. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui est assez douloureuse pour Tourisme et Travail. À partir de la fin des années 70, notamment, il peut y avoir des grèves dans les centres de vacances. Et donc, il peut y avoir des salariés de Tourisme et Travail, syndiqués à la CGT, qui entrent en grève contre le directeur, syndiqué lui aussi à la CGT, en réclamant de meilleures conditions de travail. Et on a deux discours qui s'opposent. D'un côté, le directeur qui dit: mais oui, mais si j'augmente vos salaires, si je vous donne de meilleures conditions de travail, ça va coûter cher. Ça va se reporter sur les vacanciers populaires. Et de l'autre côté, des salariés qui disent c'est une association liée à la CGT qui nous emploie. Elle doit nous assurer des conditions de travail qui sont décentes et qui sont même meilleures qu'ailleurs. Et donc bah là, on a des contradictions liées à cette professionnalisation, et des contradictions liées au fait que Tourisme et Travail, c'est une association, mais elle se situe à l'intersection entre le militantisme, le tourisme et le marché. Puisque mine de rien, il y a une concurrence du secteur marchand. Mine de rien, Tourisme et Travail adopte à partir des années 60 et des années 70, et parfois même à la demande de la CGT, une certaine rationalisation dans ses méthodes de travail. Elle adopte le marketing, par exemple, parce qu'il s'agit d'offrir des services les plus efficaces possibles aux personnes qui partent en vacances avec eux. Et donc, Tourisme et Travail, peu à peu, son fonctionnement se rapproche de plus en plus de celui d'une entreprise, d'une société commerciale. Et donc, avec là, forcément, des contradictions qui sont évidentes et qui sont, bien entendu, intéressantes à la fois pour l'historien, mais aussi pour ceux qui s'intéressent de manière générale au mouvement ouvrier, au syndicalisme et aussi au mouvement communiste.
Écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale.
Les jolies colonies de vacances.
Becqueter, on nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots, c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Le matin, on va faire les poubelles, les surveillants sont pas méchants. ils ronflent les trois quarts du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle. Les jolies colonies de vacances. Hier j'ai glissé dessus une chaise en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et trois canines au Père-Lachaise. Les punitions sont plutôt dures. Le pion il a pas son pareil. Il nous attache en plein soleil, tout nu barbouillé de confiture. Les jolies colonies de vacances. Merci maman. Se baigner, c'est le coin tranquille. On est les seules, personne y va. On va se tremper dans un petit bras où sortent les égouts de la ville. Paraît qu'on a tous le typhus. On a le pétrus tout boutonneux. Et le soir, avant de se mettre au pieu, on compte à celui qu'en aura le plus. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Envoie mes chers pères et mères, mes baisers les plus distingués. Je vous quitte là, je vais voir ma fiancée, une vieille qui a au moins ses 10 berges. Les petits, on n'a vraiment pas de chance, on nous fait jamais voyager. Mais les grandes filles vont à Tanger dans d'autres colonies de vacances. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. You Heidi, Heidi, Heida.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est avec Sylvain Patieu. On essaye de... Bah on parle de l'histoire du tourisme populaire. Et on voit ça à travers le travail que tu as fait sur l'association Tourisme et Travail. On arrive dans les années 80. Et finalement, les années 80, l'arrivée de la gauche au pouvoir en 80, finalement, presque... malgré ce qu'on pourrait s'attendre, ça va sonner le glas de cette association. Alors, dans quelle mesure c'est les pouvoirs publics? Dans quelle mesure il y a une évolution des aspirations? Tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, à certains types de loisirs. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'une association porteuse de ce projet, finalement, va disparaître?
En fait, on a trois temporalités qui s'entrechoquent. Il y a la temporalité économique avec la crise. Il y a la temporalité politique avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et puis, il y a la temporalité sociale avec les évolutions des mœurs. Et disons, la conjonction de ces trois temporalités va sonner le glas de Tourisme et Travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, la crise économique porte un rude coup à de nombreux comités d'entreprise qui, soit n'ont plus les moyens d'organiser des vacances, soit mettent en concurrence Tourisme et Travail avec des associations, avec des agences commerciales. Disons qu'ils vont vers le moindre coût. Et bon... dans le contexte de l'époque, ça peut se comprendre. Alors, la temporalité politique, on pourrait dire, elle est plutôt favorable à Tourisme et Travail, puisque la gauche arrive au pouvoir. D'ailleurs, Jean Fauché, qui était le président de Tourisme et Travail à l'époque, espère un moment être ministre du Tourisme. Bon, son espoir est déçu, mais il a quand même espéré pendant un moment. Tourisme et Travail s'engage dans des investissements sans précédent. Il recrute du personnel à tour de bras, il se lance dans l'informatique, parce qu'il pense que l'arrivée de la gauche au pouvoir va donner un coup de fouet au tourisme social. Or, ils vont déchanter avec le tournant de la rigueur, à la fois avec le tournant de la rigueur, mais aussi avec le passage de la politique de l'aide à la pierre à la politique à l'aide à la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, les pouvoirs publics donnaient des subventions, notamment par le biais des caisses nationales d'allocations familiales. Ils donnaient des subventions pour construire des équipements. Là, ils vont donner des subventions aux individus, des chèques vacances et autre chose comme ça, qui peuvent dépenser leur argent, leur chèque vacances par exemple, soit dans le secteur marchand, soit dans le secteur associatif. Et en fait, cet aspect-là va être très dur à vivre pour Tourisme et Travail, puisqu'ils vont avoir de plus en plus de mal à financer les centres, à rénover les centres, parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire de nouveaux centres, mais il s'agit aussi de mettre aux normes les anciens centres. On a écouté Les Colonies de Vacances tout à l'heure, la chanson de Pierre Perret, quand il parle de la nourriture qui est mauvaise ou des conditions pour dormir qui ne sont pas bonnes. C'est sûr que des centres qui datent des années 50 ou 60, au début des années 80, ils datent. Les gens, ils ne veulent plus partir en vacances et avoir les toilettes dans le couloir ou la salle de bain collective. Donc, il faut faire des aménagements, ça coûte cher et c'est pas facile pour Tourisme et Travail. Enfin, dernière temporalité, c'est la temporalité des mœurs, avec une désaffection quand même pour le tourisme collectif, à la fois parce qu'il y a le développement de l'automobile qui permet de partir quand même en vacances tout seul si on en a envie, et puis aussi parce que dans les jeunes générations, il y a ce côté tourisme collectif, il est moins mis en avant. Le côté tourisme encadré aussi, il est moins mis en avant. Il y a de manière générale une crise du syndicalisme, une crise de l'encadrement des milieux populaires qui fait que vous allez partir en vacances dans le même camping peut-être chaque année et vous n'avez pas besoin de le faire avec Tourisme et Travail. Vous pouvez le faire tout seul. Vous plantez votre caravane dans tel endroit et puis vous n'avez pas besoin que ça passe par le biais du comité d'entreprise ou par le biais de la CGT. Et donc, en fait, la conjonction de ces trois temporalités, la conjonction de tout ça, avec quand même une prime assez forte au changement de politique des pouvoirs publics, ça va entraîner une faillite de Tourisme et Travail. Alors, peut-être aussi le fait que ce n'était pas forcément très bien géré. Et le passage de Tourisme et Travail en société commerciale. Mais c'est une évolution qui ne touche pas seulement l'association liée à la CGT. Ça touche d'autres associations du tourisme social. Ça va, VVF va avoir des évolutions un peu semblables. VVF va connaître des crises dans les années 80. Village Vacances Famille, qui était lié à la CFDT. Et il va y avoir une difficulté vraiment pour toutes ces associations qui étaient porteuses d'un projet d'éducation populaire, d'un projet de tourisme social, à survivre. Et la plupart d'entre elles vont s'adapter soit en changeant leur public, soit en s'adressant vraiment aux plus démunis. Et celles qui changent leur public souvent se transforment en société commerciale. Donc c'est vraiment la fin d'une époque, c'est vraiment la fin de cette société salariale qui permettait, dans un cadre collectif, d'avoir des gains culturels, des gains symboliques. Et on voit que les effets, de la crise économique et puis du tournant libéral des années 80, c'est pas uniquement des effets dans le domaine du chômage, dans le domaine social, il y a aussi des effets culturels, il y a aussi des effets dans un secteur comme celui du tourisme.
Mais alors, au final de cette opération, est-ce que de cette histoire, est-ce que ça sonne le glas définitivement d'une idée de finalement que le mouvement ouvrier se dote de ses propres structures dans un peu tous les domaines de la vie et ça pose la question de, et y compris des structures qui sont des structures liées à un projet d'émancipation. Est-ce que là, pour le coup, on voit que d'autres associations, tu le dis, mais des associations un peu sur d'autres domaines vont connaître des difficultés relativement semblables dans les années qui suivent. Est-ce que c'est une époque qui sonne le glas de ce type de projet ?
C'est difficile à dire, hein, parce que en tant qu'historien, on travaille souvent plus sur le passé que sur le présent. Je ne pense pas que ça sonne forcément le glas. Mais en tout cas, je pense que c'est sûr que la période est beaucoup moins favorable à ce genre de projet. Il n'empêche que ce qui est intéressant quand même aussi en étudiant ce type de projet, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a eu comme limite, qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté, et justement de réfléchir. Alors ça peut, moi, si mon livre est lu par des personnes du mouvement syndical et que ça les intéresse et que ça pousse à des débats au sein même de la CGT ou d'autres syndicats, je serais très heureux, quoi. Mais j'ai pas forcément des réponses toutes faites à apporter. De toute façon, c'est aussi des évolutions qui touchent le secteur du tourisme en général. Le Touring Club de France fait faillite à peu près la même année que Tourisme et Travail.
Sauf que ça s'adresse pas au même public.
Alors que ça s'adresse pas au même public. Voilà, le Touring Club de France, c'était la grande association bourgeoise du tourisme. Et donc, il y a aussi, des questions à se poser sur l'encadrement qui n'est pas le même. Aujourd'hui, il y a certains domaines de la vie dans lesquels on n'a pas forcément envie de passer par une association ou de passer par un encadrement. Et est-ce que c'est des évolutions qui sont irréversibles ou pas ? Je ne suis pas capable de le dire. Mais en tout cas, ça pose des questions sur la possibilité d'une émancipation individuelle dans un cadre collectif. Et là encore, je n'ai pas prétention à apporter des réponses. Mais en tout cas, j'espère que mon livre pose certaines questions et émet certaines hypothèses et que ça peut être des pistes de réflexion. Parce que, bah, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas une question qui est beaucoup défrichée. Souvent, quand on s'intéresse au mouvement ouvrier, on va penser aux luttes, on va penser aux moments de tension sociale, on va penser à la politisation. Moi, c'est une manière d'aborder cette politisation par un autre biais, par le biais du loisir, qui est quand même quelque chose qui concerne sans doute bien plus largement, alors on peut peut-être le déplorer, mais qui concerne bien plus largement les groupes ouvriers que la politisation.
Bon, eh ben, la suite. Donc, on recevait aujourd'hui Sylvain Pathieu, qui vient de publier aux presses de Sciences Po « Tourisme et travail », sous-titré de l'éducation populaire au secteur marchand 1945-1985. Et ça coûte 30 euros quand même.
Et merci à vous de m'avoir invité.
Voilà, alors merci, j'imagine que tu reviendras un jour. Peut-être que tu nous parleras de la piraterie ou alors des souteneurs noirs à Marseille, puisque je sais que ce sont deux autres des sujets que tu maîtrises. Et puis merci d'être venu à toi.
Ben, merci à vous.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était donc Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel. Fréquence Paris Pluriel, un sous-traitant de l'insuffisance publique en matière radiophonique. On se retrouvait ce soir autour des micros, autour des boutons avec Juliette, Aude et Alex. Et on va retrouver tout de suite Claudie et Claudia puisque Antanane arrive. Ciao.